l'étude se trouve dans le livre d'Osée. Et je vais le faire sur la cassette maintenant au lieu de plus tard. Le prophète Osée est probablement le prophète le plus populaire dans l'étude biblique d'aujourd'hui des 12 prophètes mineurs. Sa manière de s'attaquer au péché d'Israël est tout à fait unique. Et il y a toujours la controverse au sujet de ces 3 premiers chapitres. Sont-ils l'allégorie ou non? Une allégorie, selon Robert, est une suite d'éléments descriptifs ou narratifs dont chacun correspond aux divers détails de l'idée qu'il prétend exprimer. C'est-à-dire, ce n'est pas une vraie histoire. Mais le livre d'Osée est écrit d'une façon qui fait sentir que l'histoire est vraie, même s'il y a un autre message en plus. La femme d'Osée était vraiment infidèle. Osée avait réellement le cœur brisé. Ses phrases sont courtes et saccadées, pleines d'émotions, comme si les pages étaient couvertes de larmes. Osée commence son ministère pendant le règne de Jéroboam II d'Israël. Son ministère couvre aussi les règnes des rois de Juda comme Ozias, Yotam, Akaz et Ézéchias. Cela veut dire qu'il prophétisait entre à peu près 750 et 721 avant Jésus-Christ. Donc il est fort possible qu'il fût toujours actif à l'époque de la destruction d'Israël par les Assyriens en 721. Cela peut aussi expliquer pourquoi Israël est appelé Ephraïm si souvent dans son livre. En date de 732, la plupart d'Israël était limitée au pays montagneux du centre qui était le territoire de la tribu d'Ephraïm. En 733, un an avant, Tiglath-Pileser d'Assyrie avait exilé le peuple d'Israël au nord et à l'est, c'est-à-dire les territoires qui s'appelaient le Galaad et la Galilée. Cela laissait plutôt le territoire au centre et, si vous vous rappelez, accomplissait la prophétie d'Amos que nous avons étudiée la dernière fois. Le nom Osée est tiré de l'hébreu Oshéa et veut dire « sauve ou salut ». C'était le nom de Josué. Et Josué veut dire « l'éternel et le salut » qui est la forme en hébreu du nom grec « Jésus ». Le travail d'Osée était d'accomplir le sens de son nom. Dieu voulait sauver les Israélites de leur péché. Il y a un contraste frappant entre les ministères d'Amos et d'Osée qui étaient actifs à peu près en même temps. Comme nous l'avons vu dans la dernière fois, Amos était un étranger venant de Juda et donc plus objectif. Osée était né en Israël et par conséquent, avait une relation plus intime avec le peuple. Comme résultat, leurs attitudes et leurs méthodes étaient très différentes. Amos s'attaquait à leur inhumanité envers l'homme, leurs attitudes extérieures, Osée s'occupait plutôt de l'infidélité d'Israël envers Dieu. Amos regardait les autres nations aussi bien qu'Israël. Osée parlait seulement du lien entre Dieu et Israël et ne s'intéressait point aux autres nations. Chez Amos, le jugement d'Israël était irrévocable, l'amour de Dieu était épuisé. Tandis que chez Osée, l'amour de Dieu est inépuisable et va triompher. Bien qu'Osée fût conscient de la justice de Dieu en disant qu'il y aura un jugement contre le transgresseur, il soulignait toujours la compassion de Dieu. Lisons le chapitre 11, les versets 8 et 9. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tesbouim? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne reviendrai pas avec colère. Le thème central d'Osée est l'amour non partagé, l'amour de Dieu non payé de retour. Dieu aimait Israël, mais Israël n'a pas répondu à cet amour. Le message d'Osée était « Dieu vous aime et il veut vous pardonner ». Donc Osée est appelé le prophète de grâce. La situation d'Osée était semblable à celle d'Amos, mais elle était devenue pire pour Osée. Rappelez-vous qu'à la conquête de Canaan, les Israélites s'étaient installés dans un pays déjà habité depuis au moins 1000 ans. Selon leurs promesses, ils ont reçu les villes qu'ils n'ont pas construites, les champs et les vignes qu'ils n'ont pas préparées et plantées. Les Israélites avaient été des nomades, donc ils ont dû apprendre à cultiver la terre des habitants qu'ils n'avaient pas chassés ou tués. Mais l'agriculture des Cananéens était liée avec leur religion. Donc, dès la conquête du pays, parce qu'ils n'avaient pas détruit ou chassé tous les habitants comme Dieu l'avait commandé, les Israélites étaient subtilement influencés par la religion cananéenne. Ils ont lutté contre l'idolâtrie dès le commencement. Malheureusement, avec l'influence des rois comme Salomon, Jéroboam Ier et Achab, Israël était complètement séduit par l'idolâtrie. Il n'était pas fidèle à Dieu. Il avait commis l'adultère spirituellement. Dans le livre d'Osée, on peut voir les étapes qu'Israël a suivies dans son infidélité. D'abord, il y avait le manque d'une connaissance intime de Dieu. Le peuple était ignorant de Dieu. Dans chapitre 4, verset 6, Dieu dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ensuite, ils étaient orgueilleux. Comme nous l'avons vu dans le livre d'Amos, ils se croyaient indestructibles. Ils étaient trop bons, trop bénis pour être détruits. Mais dans chapitre 5, verset 5, il est dit, « L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraim tomberont pour leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. » Le chapitre 6, le verset 6, ils étaient instables, vacillants. Votre piété est comme la nuée du matin, dit Osée, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Chapitre 7, le verset 8, ils étaient mondains, attachés aux choses matérielles. Ils étaient corrompus parce qu'ils se sont mélangés avec les péchés des autres nations. Chapitre 9, le verset 9, ils sont plongés dans la corruption. Chapitre 11, verset 7. Mon peuple est incliné à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Chapitre 13, le verset 2. Israël s'est donné complètement à l'idolâtrie. Osée dit, ceux qui sacrifient baisent les veaux. Le veau était le symbole de Baal, le dieu de la fertilité. Écoutez le chapitre 4. Les versets 1 et 2. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Et puis le verset 14. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec les prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Le peuple a emprunté la prostitution religieuse de leurs voisins païens. Dans le chapitre 9, les versets 9 et 10, nous lisons, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité. Il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Alors, oser lutter contre une situation complètement dégénérée, un peuple immoral, infidèle, comment voudriez-vous communiquer l'amour de Dieu à un peuple pareil? Comment voudriez-vous raconter le désir ardent de Dieu de voir leur repentance? Dieu, il a choisi le moyen d'un exemple vivant. Il a choisi quelque chose que le peuple pouvait voir, quelque chose que le peuple pouvait pénétrer par sympathie. Il a commandé à Osée de se marier avec une prostituée, une femme qui s'est donnée à n'importe quel homme pour un prix, une femme qui faisait partie de l'immoralité du temps. En réalité, Dieu avait trois moyens de communiquer son message. Le mariage d'Osée, les enfants d'Osée et une sorte de procès. Dieu a dit à Osée dans le chapitre 1, le verset 2, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. » Pendant une période, Gomer a été fidèle à Osée. Ils ont eu trois enfants. Puis dans le chapitre 2, il semble que Dieu parle à Israël, mais on voit aussi que cela décrit la situation d'Osée avec Gomer. Gomer s'était prostituée à nouveau. Les enfants même ont supplié leur maman d'arrêter son adultère. Évidemment, elle était si ouverte que même ses enfants savaient ce qu'elle faisait. On peut aussi voir la colère de la part d'Osée. « Arrête donc, dit-il, ou je vais vous humilier. » Le chapitre 2, le verset 6. « Je n'aurai pas pitié de ses enfants. » On peut presque entendre ses sanglots de colère et en même temps son angoisse quand il s'écrie « Je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais tout ce qu'elle a. » Chapitre 2, le verset 8 à 10. Il semble que ces efforts d'Osée n'avaient aucun résultat, aucun effet. Gomer est rentré chez ses amants, laissant les enfants avec Osée. Mais, dans le chapitre 3, Dieu dit à Osée d'aller la chercher et de l'aimer comme autrefois. Osée devait payer quelque chose pour l'avoir, 15 sicles d'argent et de l'orge. Quelques-uns ont même dit qu'elle s'était vendue comme esclave et qu'il fallait qu'Osée l'ait achetée pour au marché des esclaves. C'est difficile pour moi d'imaginer les sentiments qu'Osée devait avoir, mais je suis sûr qu'il avait le cœur brisé. Il avait passé par un temps tellement difficile. Sa famille était déchirée par l'angoisse. Quand même, il a pardonné à Gomer lorsqu'elle est revenue. Il n'y avait pas d'amertume de la part d'Osée. Il avait aimé et lui avait pardonné complètement. Dieu a pris cet exemple et dit, « Regarde Israël, tu as fait de même envers moi. Je t'aimais, je te soignais, mais tu étais infidèle. Tu t'es donné aux autres. Reviens, je te pardonnerai comme Osée a pardonné à Gomer. Regarde comme il était angoissé. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que tu me fais la même chose? Reviens, et je t'aimerai comme autrefois. » La deuxième méthode pour rappeler Israël était les enfants d'Osée. Les noms des enfants sont pleins de sens. Le fils aîné s'appelait Israël, qui signifie en hébreu « Dieu sème ». Ce nom impliquant le sens de semer la destruction rappelait des faits historiques aux Israélites. Sisera fut vaincu dans cette plaine. Gédéon y combattit les Madianites et les Amalécites. Et les batailles s'y livraient entre les Philistins et les Israélites. Le souvenir le plus sinistre qu'évoquait ce lieu était le massacre qui fit Jéhu de la maison d'Akab. C'est aussi à Israël que les hommes de Jéhu ont blessé mortellement Ocosias, roi de Juda. Mais ce nom dans Osée annonce le châtiment de la maison de Jéhu dont Jéroboam II faisait partie. Son deuxième enfant était une fille qui s'appelait Loruchama, qui signifie littéralement « celle dont on n'a pas pitié ». Dieu avait été miséricordieux, mais il ne le sera plus. Le troisième enfant, un garçon, s'appelait Loami, ou non, mon peuple, littéralement celui qui n'est point mon peuple. Comme Gomer, infidèle à Osée, Israël avait forfait à l'alliance que Dieu avait faite avec la nation. Dès le chapitre 4, Dieu fait un procès avec Israël. Voilà la troisième méthode pour présenter son message. Les chapitres 4 à 14 ne sont pas une suite de discours, ni même une longue prédication, mais un résumé d'enseignements prophétiques, élaboré par Osée vers la fin de son ministère. La plupart des prophéties dans ces chapitres étaient annoncées au moment où l'Assyrie remplissait Israël de terreur. Dieu décrit des péchés d'Israël et leurs conséquences. Par exemple, dans le chapitre 4, nous avons déjà lu les versets 1 et 2, nous allons les relire, et aussi les versets 3 à 10. 4, 1 à 10. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec toi, avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la voix de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. J'ai changé leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirerai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Dans le chapitre 8, le verset 7, « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Chapitre 10, le verset 13, « Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. » Et puis, le chapitre 10, le verset 12, « Il est temps de chercher l'Éternel. » Si Israël voulait être épargné, il devait suivre la voie de Dieu. Il fallait faire ce que Dieu a dit. Voici, je crois, où se trouve la leçon pour Israël et pour nous-mêmes. D'abord, il fallait répudier tout faux Dieu. Chapitre 2, les versets 18 à 19. Ensuite, il fallait commencer à nouveau, avec une nouvelle conscience, à chercher le seul et vrai Dieu. Chapitre 5, le verset 15, jusqu'au chapitre 6, le verset 2. Troisièmement, il fallait montrer les fruits de leur nouvelle vie. Chapitre 2, les versets 21 et 22. La paix, la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde, la fidélité. Quatrièmement, il fallait avouer leur culpabilité et en demander pardon avec un cœur sincère. Chapitre 14, les versets 1 à 3. Et enfin, il fallait vivre dans une nouveauté de vie. Nous pouvons aussi tirer d'Osée les leçons suivantes. Notre ignorance de Dieu, premièrement, va nous condamner. On peut dire qu'Israël avait soif de Dieu. Il voulait adorer quelque chose. Le désir d'adorer peut être une bénédiction ou une malédiction. Tout dépend du degré de notre connaissance de Dieu. Nous trouverons le Dieu vivant ou nous serons condamnés dans une adoration fausse et vaine. Et il y a toutes sortes de faux dieux dans notre monde aujourd'hui. Deuxièmement, Osée nous montre la folie de mettre notre confiance dans un pouvoir militaire, dans une fausse religion, dans les choses matérielles ou en nous-mêmes. Dieu seul est un sûr appui. Nous sommes tous infidèles à Dieu de temps en temps. Nous devons accepter le challenge d'Osée, c'est-à-dire de mettre Dieu le premier dans notre vie. On trouve le même challenge chez Jésus. Matthieu 6, le verset 33, une partie du Sermon sur la montagne. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par sur quoi. Et cela est exactement ce qu'Israël n'avait pas fait, et cela lui coûtait la vie. Jésus nous offre aussi le salut et la vie. Il dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, le verset 6. Est-ce que nous y croyons? Amen.